Welcome to LeBigUSA.com.
Ouais, salut le Big. Déjà, bonjour à tout le monde, à toute l'équipe et merci pour votre travail. J'avais quelques petites questions. Donc, en ce qui concerne les titres Est et Ouest, on pense que cette année, les mieux placés pour gagner sont Dylan et Pecton, les champions sortants de 2019. Je veux savoir à quand remonter la dernière fois où les champions Est et Ouest avaient rempilé une deuxième année consécutive une couronne light. Donc voilà, on a pu en voir certains à l'Est ou à l'Ouest, mais sur les deux côtes, j'en ai pas souvenir.
Ben, je t'avoue qu'il a fallu que je replonge dans les archives parce que j'en avais pas le souvenir. Il faut dire que c'était il y a presque 30 ans en arrière et que j'étais pas bien vieille à cette époque. Donc la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1992. Jeremy McGrath est champion sur la côte ouest en 1991. Brian Swink est champion sur la côte est de cette même année 91. Et tous les deux rempilent en 92, McGrath à l'ouest et Swink à l'est. Voilà, à l'époque, ça roulait pas en 250, ça roulait en 125. Et encore une fois, c'était il y a presque 30 ans en arrière. Voilà, donc autant dire que si Dylan et Chase réalisent l'exploit cette année, la saison 2020 sera marquée d'une pierre blanche, c'est certain.
Si le SX reprend en fin d'année, est-ce que Marvin va rouler ses SX? Parce que contractuellement, il est obligé, il n'a rien à gagner. Est-ce que c'est pas dangereux pour lui de se blesser pour la saison 2021? Ce qui m'amène à poser une autre petite question aussi au niveau de l'outdoor. On sait que le championnat SX est beaucoup plus prestigieux que le championnat outdoor pour les pilotes. Est-ce qu'on peut imaginer que des pilotes comme Tomac ou Roxen vont rouler sur la réserve en outdoor pour se préserver pour le titre SX? Ça serait dommage.
Alors là, ta question m'étonne un peu parce que je vois pas du tout, mais alors pas du tout pourquoi Marvin roulerait en Supercross à la fin de l'année alors qu'il a pas roulé du tout. Il n'aura pas fait l'outdoor. Pourquoi tu voudrais qu'il revienne finir en septembre et octobre un championnat qu'il a d'abord pas commencé et pour laquelle il va pas être prêt à mon avis, et surtout il a rien à y gagner quoi. Donc je vois pas pourquoi ça se termine Supercross US 2020 en septembre et octobre, je vois pas pourquoi Marvin roulerait. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ta question sur l'outdoor, est-ce que Eli Tomac, Ken Roczen ou Even, je sais plus parler en français moi, et même Cooper Webb vont rouler sur la réserve en outdoor pour finir Supercross? Bah écoute, la réponse est un peu dans ta question. Je pense que oui, effectivement, il faut pas avoir une boule de cristal pour voir ça. Si l'outdoor se fait bien à partir du 13 juin et que le Supercross se fait bien après l'outdoor, donc en septembre ou en octobre, effectivement, je pense qu'ils vont pas donner, ils vont pas tout donner en outdoor pour éventuellement se blesser et pas finir le Supercross. Ça me paraît aussi évident. Enfin, encore une fois, on ne sait pas ce que les gens sont capables, ce qu'ils veulent faire, mais là, je vois pas comment ça serait autrement. Et effectivement, ça serait dommage pour le spectacle. Mais bon, maintenant, il y a des priorités.
Salut à toute l'équipe du Big, Julien Weirs. Je viens d'écouter là les réponses de la semaine qui vient de se passer. Et suite à la question de la personne de Pau sur les archives, etc., j'ai pensé à une suggestion. Peut-être qu'on l'a déjà faite, mais bon, je la partage, sait-on jamais. C'est vrai que Seattle, c'était ce week-end. Il y a d'autres SX qui vont arriver. Et naturellement, tout ce qu'on va faire, enfin, c'est ce que moi je fais par exemple en début de saison, avant Anaheim, quand je suis trop impatient, on va regarder les courses des années précédentes. Et je me disais que ce serait drôle si peut-être, par exemple, il y avait un Seattle, je dis n'importe quoi, 2006, et qu'en fait, le dimanche matin, il y a les résultats du Seattle. Du SX de Seattle de 2006, il y a éventuellement, si possible, un résumé vidéo, parce que parfois sur YouTube, on retrouve pas mal de choses, ou des Dailymotion, et peut-être même que vous avez du contenu un peu exclusif, des interviews de l'époque, enfin, je sais plus de quand ça date, le Big USA, mais éventuellement, des articles à faire sortir lundi et mardi par rapport à cette date que vous aurez choisie. Voilà, c'est une histoire de repartir sur un revival. Et puis ça nous permettrait, parce que il y a des années, les courses sont pas passionnantes, et puis il y a des années, il se passe vraiment des choses. Ça nous permettrait de rebondir d'année en année et de revivre tranquillement les différents supercross des dernières décennies. Voilà, c'était une suggestion au passage. Bon courage bien sûr pour cette période, et rassurez-vous, on reste présent, et comme vous, on sera patient pour l'outdoor. Voilà. Allez, salut et portez-vous bien.
Tiens, un revenant, Julien Wiers, ça fait longtemps que tu n'avais pas posé de questions. Merci pour ta suggestion à propos de la publication des archives, etc. On en a beaucoup parlé au sein de la rédaction et pour finalement décider que bah, c'était pas trop notre truc de mettre en ligne des anciennes interviews, des vidéos, des vieux commentaires, etc. On estime qu'on les a postés une fois, donc c'est OK. Maintenant, comme tu dis toi-même, sur YouTube et Dailymotion, et, on trouve de tout, il suffit de chercher un peu, donc c'est pas vraiment notre rôle de faire ce boulot. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de particulier, bah, il suffit presque de taper sur la barre de recherche lebigusser.com et vous allez trouver a priori tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas trop notre truc, on vous laisse faire et on préfère encore une fois travailler sur des trucs nouveaux et de l'actualité, voilà, présente. Sinon, pour répondre à la question, le Bigusa existe depuis 1900. Non, pas si vieux que ça. Existe depuis 2011. Voilà.
Oui, bonsoir. C'est Mehdi du Lot à Cahors. Moi, j'avais une question pour savoir. J'aurais aimé savoir combien les pilotes touchés par place en MXGP à la fin, en fait, du Grand Prix, combien chez le premier, le deuxième, jusqu'au dixième. Pareil en SX Tour et en SX US. Parce que personne parle de leur salaire et personne nous explique leur prime d'arrivée à chaque fois. Et ça a l'air d'être un tabou. Et comme on dit que le cross ne paye pas, j'aurais voulu avoir quelques chiffres si c'est possible. Voilà, merci beaucoup.
Personne ne parle des salaires des pilotes. C'est totalement faux ça. Hein. Nous, on le fait régulièrement dès qu'on a l'occasion. Donc Mehdi, je te propose d'aller sur la barre recherche lebigusser.com et tu tapes prime, P-R-I-M-E-S, prime, et tu verras donc les primes que gagnent les pilotes en Supercross US. On a aussi un petit, il y a aussi une news sur les MXJ, les GP. Donc toutes les réponses à tes questions sont là. Si c'est tabou, encore une fois, non, pas vraiment, hein, puisque tous ces chiffres sont publics aux États-Unis. Donc, je t'invite à aller lire tout ça sur le site. Merci de ta question, Mehdi. À bientôt.
Oui, bonsoir, le Big. C'est Pascal à l'appareil. J'avais une question un peu technique qui me taraude depuis des années concernant le SX et les boîtes de vitesse. Savoir combien ils ont de vitesse sur leur moto et savoir s'ils en changent régulièrement, parce que j'ai l'impression qu'ils roulent toujours en 2 ou en 3. Donc, oui, si vous pouvez répondre, c'est gentil, salut.
Merci beaucoup pour la question. Je vais profiter d'avoir Yann Primo au téléphone. Il va répondre directement parce que Yann, tu sais, je suis une bite en mécanique. Hein, il faut mieux pas que je réponde. Hein.
Ouais, non, ça va. Je vais t'aider sur ce coup-là. Mais ça, on va se débrouiller. À deux, je pense qu'on peut faire quelque chose.
Ok. À deux, à un et quart alors, hein, parce que moi, je vais juste être là pour tenir le téléphone. Hein.
Ok, bon, mais nickel.
Alors,
c'est déjà un bon début, c'est top.
Alors, combien de vitesse sur les boîtes en Supercross?
Donc, en fait, on va commencer par le début. Donc, aux US, que ce soit en Supercross, il y a la Production Rules. Donc, si ta moto, elle arrive avec 5 vitesses, que ce soit en 2,5 ou 4,5, t'es obligé d'avoir 5 vitesses.
Donc, d'accord. Après, donc, la Production Rules, on explique vite fait, c'est la moto qui est chez ton concessionnaire.
Voilà, exactement. Donc, si tu veux, comme les 450 ou 2,5, les cadres, ils sont d'origine. Donc, il y a le droit d'ajouter de la matière, mais pas d'en enlever. T'as pas le droit de changer les angles de chasse sur le cadre directement. T'es obligé de le changer soit avec l'été, soit avec les coquilles de roulement de direction. L'inclinaison du moteur, t'as pas le droit d'y toucher parce que c'est d'origine, il faut que ça reste d'origine. Donc, ils sont assez limités là-dessus. Donc, pour revenir aux boîtes de vitesse, donc si ta moto, elle a 5 vitesses, t'es obligé d'en avoir 5 dans ton moteur. Après, comme la Pro Circuit, par exemple, ou Star Yamaha, ils ont donc 5 vitesses. Les rapports de boîtes sont différents, bien sûr, par rapport à l'origine, pour le Supercross ou l'Outdoor. Donc, comme il parlait, ton, comment t'appelles ça?
Mon abonné.
Ton abonné, voilà.
L'abonné qui a posé une question, qui est donc une personne, un être humain, Yon.
Voilà, je cherche mes mots, je parle plus souvent français, donc je cherche vos mots. Donc du coup, oui, il roule souvent 2, 3, 4. Après, ça dépend un peu comment la boîte de vitesse est étagée. Ça dépend des teams, ça dépend un peu comment leurs moteurs sont développés. Donc voilà. Donc ils ont tous la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Si ta moto elle sort d'origine avec ça. Après, il y a des moyens de contourner le règlement. Tu as le droit d'avoir. Donc si tu veux que ta boîte de vitesse elle ait que 4 vitesses, tu peux le faire, mais il faut qu'il y ait le cinquième pignon dans la boîte. Donc tu peux mettre un pignon en plastique. Ce que certains types font, tu as le droit d'avoir un pignon en plastique. Il faut qu'il y ait, si en même temps ils démontent les moteurs, ils disent bon ben ouais, ils roulent avec une boîte 4, il faut contrôler. Ici, ils se font ouvrir le moteur, il faut qu'il y ait 5 pignons. Qui marche ou pas, tu es obligé d'avoir 5 pignons dedans. Après, tu peux modifier pour que ça s'arrête en 4, admettons. Tu peux mettre, entre guillemets, un clips sur le barillet de sélection et ça s'arrête en 4 au lieu d'aller sur la 5e pour gagner du poids, si tu veux.
D'accord.
Donc voilà, c'est comme ça que beaucoup de teams font. Chez Yamaha, Team 450, ils faisaient comme ça quand moi, le peu de temps que je suis resté, c'était comme ça. Après, chez Pro Circuit, ils ont 5 vitesses, tu vois, chez Star Yamaha aussi, parce que les boîtes, on les a vues, enfin, moi, je les ai vues. Après, comme je disais, c'est les rapports de boîtes qui changent. Après, les changer souvent, oui et non. Chez Pro Circuit, ils font faire des boîtes de vitesse spéciales en Angleterre, comme j'en ai déjà parlé un peu dans plusieurs interviews. Donc la boîte de vitesse, elle vaut quand même 20 000 euros. Hein. Donc la boîte de vitesse, ça dure des heures et des heures. J'avais un moteur de test, moi, avec Tedesco. La boîte de vitesse, elle avait 108 heures et c'était nickel. Je veux dire... Wow. T'as pas l'impression que ça avait roulé, tu vois. Donc après, sur les moteurs de course, c'est changé toutes les 40 heures, tu vois, 40-50 heures, pour pas prendre de risque. Tu vois, c'est bête de mettre une boîte de vitesse en course qui a 100 heures pour avoir des risques de casse, même si c'est costaud. Donc en général, les moteurs de course, ils font 40 heures, puis après ça passe à l'entraînement et ainsi de suite. Ils font des rotations et ainsi de suite. Donc après, certaines boîtes de vitesse, comme certains teams, ils font juste faire traiter les pignons. Et là, oui, à force, au bout de 20-30 heures, après ça dépend des pilotes, comment ils roulent aussi. Hein. C'est-à-dire, t'as des pilotes comme Bauer, Zil Wilson. Eux ils sont assez durs sur la mécanique, donc ouais, certains pignons s'abîment plus que d'autres, donc mais de là à changer toutes les courses ou quoi, non, c'est si tu dois le changer toutes les courses, je pense que vaut mieux changer de boîte de vitesse ou de
pilote
de panique qui fait quoi.
j'en profite pour que tu sois là au téléphone. On avait eu la question, on n'avait pas vraiment répondu. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se changeait le plus sur les motos. Tu peux peut-être répondre.
D'une course à une autre. Au niveau moteur.
Au niveau pièces, au niveau d'une course à une autre, qu'est-ce que tu changes?
Déjà tout ce qui est esthétique, tout ce qui est kit déco et plastique, c'est neuf toutes les courses. Les poignées, que ce soit rental, ODI ou peu importe, ça c'est pareil, c'est changé toutes les courses. Les plaquettes, c'est changé toutes les courses. Chaînes, c'est toutes les courses. Les patins chaînes, pareil, toutes les courses. Tout ce qui est consommable, on va dire, c'est fait toutes les courses. Ouais. J'ai un cap de gaz d'embrayage. En général, nous, chez PC, on faisait toutes les deux courses. Et après, on les gardait pour l'entraînement ou des fois, les mécaniciens, ils étaient trop fainéants pour les nettoyer et les remettre sur un moteur d'entraînement. Donc, ça partait à la poubelle. Mais tout ce qui est consommable, comme j'ai dit, plaquettes, chaînes, plastique, déco, tout ça, c'est changé toutes les courses.
Et après, suivant les grosses pièces, après, il y a un nombre d'heures et puis vous regardez ça, tout est écrit et tout doit être échangé en fonction de ce qui a été décidé.
Voilà, après, ça dépend des motos. moi j'ai beaucoup d'expérience avec la Kawa, donc en discutant avec un gars de chez Geico, c'est pareil, les cadres ils font entre 40 et 50 heures à l'entraînement, et après en course, Supercross, ben ça fait la saison de Supercross, à moins que quand tu démontes ton cadre, ça arrive qu'il soit fissuré ou quoi que ce soit, donc là tu changes. Mais en général, ils font un cadre neuf pour le Supercross, pardon. Donc, quand je dis cadre, c'est cadre, brossillant et arrière de cadre. Donc, ça fait toute la saison de Supercross. Et après, ça fait un autre neuf, ça fait toute la saison d'outdoor. Donc après, les teams d'usine comme Kawa, 450, Honda, ils ont tendance à changer les cadres et tout ça un peu plus souvent, tu vois. Donc, ça varie vachement d'un team à l'autre. Ça dépend des budgets, ça dépend des teams, des pilotes aussi. En règle générale, c'est comme ça. Une quarantaine, 50 heures à l'entraînement et hop, ça repart sur une moto neuve et puis ainsi de suite.
Oui, bonsoir Stéphane. Hugo de Bonlier dans l'Oise. J'aimerais savoir, est-ce que les pilotes de Supercross ont encore, ou de motocross, ont encore peur parfois en franchissant un obstacle ou un saut? Je pense notamment à la piste de Glen Helen. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, Stéphane, qui est liée à la première, question plus intimiste, voire intime. Quel est le pilote ou alors le saut qui, ces dernières années, t'a le plus impressionné? Donc, qui t'a scotché un petit peu, où tu as pu remarquer que c'était un très technique ou alors très spectaculaire. Merci Stéphane, à bientôt, le Big.
Alors Hugo, est-ce que les pilotes ont peur en sautant? Alors je pourrais pas répondre pour tous les pilotes, mais d'après ce que je sais, d'après ce qu'ils me disent, oui, évidemment qu'ils ont peur. Enfin, je sais pas si c'est de la peur, c'est plus de l'appréhension quand ils se mettent à sauter pour la première fois un triple par exemple. Ils ont de l'appréhension, donc je sais pas si c'est vraiment de la peur. Mais oui, effectivement, ça leur arrive tout le temps, malgré l'expérience et tout, parce que bon, la peur n'empêche pas le danger non plus. Donc, il y a toujours cette petite pincement, j'arrive pas à trouver mes mots. Tu sais, cette petite angoisse, voilà, quand tu passes un saut pour la première fois. Après, ta question plus intimiste, savoir ce qui m'avait le plus impressionné, un pilote ou un saut en particulier, alors là, je ne pourrais pas te dire parce que j'en vois tellement, mais la seule réponse que je pourrais donner, c'est que moi, il m'impressionne tout le temps. Voilà, quand je suis, quand tu es sur la piste et que tu te mets par exemple, tu fais le track walk et tu arrives juste en bas d'un triple, et tu vois pas la réception derrière, par exemple, je me dis, mais comment ils font, quoi. Et donc, ça m'impressionne. Voilà. Après, j'ai pas vraiment un saut qui m'impressionne en particulier. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Hugo. À bientôt.
Salut le Big, c'est Pompon. Bon, j'ai plusieurs questions concernant le SX et tout. Mais tout d'abord, toi, comment ça va? Et comment tu survis à cette crise? Et puis, pour revenir dans le cross, quelle est l'ambiance dans les paddocks? Et puis, quel est le Supercross, on va dire, le mieux pour aller voir, où il y a le plus d'ambiance, quel est le plus beau? Allez, merci le Big, attention à toi et la bise!
Alors, Pompon, comment je vais? Je vais bien, il n'y a pas à se plaindre. Hein. On n'est pas en confinement à Las Vegas, mais on se met quand même en confinement, on reste à la maison, on essaye de pas trop sortir pour pas prendre de risques. Donc voilà, à part ça, c'est tout. Hein. C'est un peu la galère de ne pas aller sur les courses le week-end. Là, par exemple, j'enregistre ce podcast Hotline samedi après-midi pour qu'il soit en ligne dimanche matin pour vous. Et normalement, je devrais être à Denver. Donc voilà, il y a toujours une petite pensée sur le fait qu'on pourrait être sur un terrain de Supercross à bosser. Mais bon, c'est comme ça. L'ambiance dans les paddocks, alors je sais pas si tu me demandes l'ambiance dans les paddocks maintenant, parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de paddock, ou l'ambiance dans les paddocks avant. Donc avant, c'est difficile aussi de répondre à cette question, parce que c'est un peu différent en fonction des courses, d'où on est, s'il fait beau, pas beau, s'il y a du monde, pas du monde. Mais bon, il y a toujours une super ambiance dans les paddocks, il y a plein d'animations, c'est vraiment sympa. Tout ça pour rebondir sur ta question, le plus beau SX, là où il y a le plus d'ambiance. Écoute, encore une fois, chacun est différent, chacun voit les choses d'une façon et pas d'une autre par rapport aux autres. Mais enfin, bon, bref, je pense que le Supercross de Daytona, c'est quand même vachement sympa d'être au milieu de ce speedway de vitesse. Généralement, il fait beau, il y a du soleil, les paddocks sont assez bien faits, on peut quand même voir pas mal de monde. La course, on voit bien la course tout en haut de. Non, enfin, voilà, je dirais Daytona. Il y a aussi le fait que c'est en Floride, il y a la plage, il y a la bike week, il y a plein de choses qui se passent autour. Donc, si je pense que le fond de ta question, c'est de savoir si tu devais venir un jour aux États-Unis voir un Supercross US, lequel faudrait venir voir. Je dirais Daytona, je dirais Las Vegas quand c'était la finale. Bon, c'est plus la finale, mais bon, je dirais quand même Las Vegas parce que ça reste quand même la ville du jeu. C'est là où tu peux faire plein de trucs. Et après, c'est vrai qu'Anaheim, l'ouverture, c'est quand même aussi quelque chose d'assez spécial.
Bonjour le Big, c'est Pascal de Sainte-Geneviève des Bois dans le 91. Écoute, j'ai vu la semaine dernière dans le T'as vu quoi que personne t'avait appelé. Donc, enfin, trois personnes. Donc, voilà, j'ai aucune question, j'ai rien du tout. C'est juste pour passer un petit coucou depuis la région parisienne où il fait un temps magnifique. Voilà, écoute, à bientôt.
Posez votre question, très bien.
Non, j'ai pas de question, c'est pour les harlés qu'il a eu directement chez ZZ. Ça s'est comme des pommes avec les camions.
On lui dira.
Salut le Big. Bon, sérieux, je voulais savoir où est-ce que je peux trouver vraiment une bonne table de ping-pong, tu vois, niveau World Cup, quelle marque il faut prendre, enfin, voilà. Je voulais que tu nous indiques un petit peu ce qu'on peut faire là-dessus, parce que pareil, je pense essayer de devenir champion du monde là récemment. Donc voilà. Allez, merci d'avance pour les infos. Ciao la bise.
Bon, là, je vais être obligé d'être un peu franchouillard et te dire d'acheter une table Cornillo. Une table de ping-pong Cornillo, c'est les meilleures, c'est les plus belles. C'est pas les moins chères, hein, parce qu'il faut compter à peu près 3000 euros minimum pour une table de compétition. Mais bon, si tu veux être champion du monde, il y a que ça. Hein. Il faut jouer français et puis il faut y aller à fond. N'oublie pas d'acheter des bonnes raquettes et des bonnes balles aussi. Et dès que tu es champion du monde, tu nous contactes et on fera une interview sur lebigpingpongusa.com.
Oui, salut l'équipe. Moi, ça aurait été juste pour savoir où s'en sont les transferts. Parce que vu comment se passe la saison, je pense que ça va commencer à bouger derrière quand même, j'imagine. Et j'étais un grand fan de Kevin Windham. J'aurais voulu avoir des nouvelles, s'il y en avait de lui. Et un grand courage à vous pour trouver des choses pour nous occuper. Merci.
Bah non, justement, des transferts, il n'y en a pas. Malgré ce qui se passe, comme tu dis, il ne se passe absolument rien. Donc, ça ne roule pas. Il n'y a pas de l'outdoor pour l'instant. Il n'y a pas de supercross. Donc, qui vaut quoi, qui va où, qui va faire quoi, on n'en a aucune idée. Donc, malgré ce que tu imagines, les transferts vont être retardés cette saison. On en saura plus à la fin de l'année pour savoir, on espère, pour 2021. Merci beaucoup pour tes encouragements et effectivement, on fait ce qu'on peut pour remplir le site, mais bon, on est là pour ça.
Oui, bonjour le Big et toute l'équipe. C'est Didier. J'aurais voulu vous remercier pour le poisson d'avril que vous faites. Là. Il y en a qui partent dans des délires pas possibles à critiquer Marvin parce qu'il ne reviendra pas. Voilà. Continuez à nous faire rire, c'est très bien. Merci. Bonne continuation. Salut.
Ah, le poisson d'avril de cette année, le bigpingpongusa.com. Ben merci, ça, c'est cool si ça vous a plu. Sur le papier, c'était pas non plus la meilleure idée, c'était pas la plus drôle. Mais bon, on essaye de faire des trucs différents et originaux par rapport aux autres. Et on voulait sortir un peu du carcan des poissons d'avril qui se passe dans le milieu du cross. Donc voilà, merci Alex d'avoir fait le site lebigpingpongusa.com aussi rapidement. On a mis quelques articles, quelques interviews grâce à Cédric Souberas. Il y a aussi Marvin Musquin qui ont joué le jeu, donc c'est vraiment cool. Il y avait plein de pilotes qui voulaient participer, mais c'est pas facile. Si on vous avait pas de table de ping-pong ou de raquette, c'est difficile. Donc il y avait Ken Roczen qui était d'accord, Zach Osborne, Shane McElrath, Jason Anderson. Ils voulaient tous faire quelque chose, mais bon, sans photo, c'était moins drôle. Donc du coup, on a fait avec ce qu'on avait et j'espère que ça vous a plu. Hein. C'est toujours difficile de trouver des nouvelles idées d'une année sur l'autre, mais je pense que cela était plutôt pas mal. voilà, donc c'était pas genre le poisson d'avril, ah j'y crois tout de suite ou j'y crois pas, etc. Mais sur le fond et sur le fait qu'il y avait un site, je pense que ça vous a fait sourire et c'était l'objectif.
Salut le Big, c'est Robin, bah, c'est pour savoir en fait une question pour Dylan Ferrandis en fait, parce que je sais que Plessinger, il lui reste un an de contrat avec Yamaha. Et bon, Dylan Ferrandi va re-signer, enfin va passer en 4-5 ans normalement. Mais bon, par rapport au résultat de Barcia, est-ce qu'ils peuvent le re-signer en fait? Parce que bon, il a quand même fait des bons résultats, Barcia en Supercross cette année. Il a fait des podiums, il a gagné à Naïm, je crois. Et donc voilà, est-ce que Yamaha en fait mettrait 3 pilotes 4-50 par exemple? Voilà, merci.
Alors Robin, la vraie question qu'il faudrait se poser, et c'est marrant que tu ne te la poses pas, pourquoi tu penses une seule seconde que Dylan Ferrandis irait signer chez Yamaha en 4,5? A priori, il n'y a rien d'écrit dans le marbre. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est chez Yamaha depuis toutes ces années chez Star Racing qu'il va forcément passer chez Yamaha officiel aux côtés de Justin Barcia et Aaron Plessinger. Donc j'ai pas la réponse parce que j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas. Mais moi je m'interroge pourquoi il irait chez Yamaha. Il y a peut-être d'autres possibilités. Surtout que les guidons vont être rares comme tu dis. Donc Plessinger et Barcia vont pas laisser leur place comme ça à Dylan. Donc je pense que c'est un peu plus compliqué que ce que tu penses que ça l'est. Et surtout, bah, il faut finir ce championnat d'outdoor et finir ce championnat de Supercross pour y voir un peu plus clair.
Salut le Big, Romain de Clermont-Ferrand. J'avais une petite question pour DV. J'aurais voulu savoir si c'était plausible de voir Dylan sur une Suzuki l'année prochaine et si éventuellement pour lui, ça serait une bonne moto. Voilà, merci.
Salut Romano. En ce qui concerne Dylan et l'année prochaine, je connais pas... Je sais pas quel contact il a, où il va rouler, sincèrement, et c'est pas Mesognon. Et il prendra la meilleure décision. Je pense que quand il en saura plus, il me demandera mon avis. Enfin, j'espère et je pense. En ce qui concerne la Suze, oui, 4,5, c'est une bonne moto. Elle est dans le bon paquet. On est en 2020, donc toutes les 4,5 sont bonnes. Après, le seul truc qu'il faut voir, c'est est-ce que le team est prêt à faire ce qu'il faut pour et être assez ouvert d'esprit, tout en gardant l'expérience qu'ils ont, mais être ouvert d'esprit pour essayer des choses peut-être un peu différentes pour Dylan. Et surtout, le passage en 4,5 est souvent, quand on change de moto, c'est de commencer vraiment le testing de zéro, quoi. Partir d'une moto d'origine et mettre des pièces au fur et à mesure dessus, essayer. Ça prend vraiment du temps de faire une moto comme il faut. Le problème... que je vois souvent, c'est que quand les mecs changent de marque et qu'ils vont dans des teams usines ou autres, ils commencent le testing avec des motos déjà modifiées, ce qui est un problème. Et ça a été aussi un peu le problème de Dylan quand il est arrivé chez Star. Il a commencé avec une moto qui était déjà modifiée. Alors que quand moi je suis arrivé avec lui, on est revenu à on a repris les bases plus stock et repasser toutes les pièces en vue pour voir ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'il voulait. Et je pense que ça c'est important, c'est les gens des teams, que ça soit en moteur, suspension, il faut qu'ils comprennent qu'il faut commencer en bas de l'échelle et pour bien comprendre ce que le pilote veut, ce qu'il aime, ce qui fonctionne. Et peut-être qu'une moto qui gagnait avec un autre pilote ou qui était bon pour une moto qui était bonne pour un autre pilote n'est pas forcément bonne pour un pilote qui arrive d'une autre moto et avec un pilotage différent, un gabarit différent. Si les mecs roulent sur l'avant, plus sur l'arrière, ils roulent en régime moteur haut, bas, enfin bref, il y a plein de choses qui diffèrent suivant les pilotes et les motos. Il faut qu'elles soient adaptées vraiment aux pilotes. Et les teams, il faut qu'ils soient ouverts d'esprit pour le comprendre. Et j'espère que où il signera, ça sera le cas. Et voilà quoi. Mais je pense que toutes les motos aujourd'hui, avec des mecs compétents qui travaillent dessus et avec de la patience et du temps, c'est possible de faire une très bonne moto avec n'importe quelle marque.
Merci beaucoup DV d'avoir répondu une nouvelle fois aux questions des abonnés lebigessart.com sur la Outline. Ainsi se termine ce podcast. J'espère que ça vous a intéressé malgré tout, que ça a passé un peu votre temps de dimanche si vous l'écoutez dimanche, et puis après si vous l'écoutez un autre jour, hein, j'espère que ça vous avez passé un peu de temps avec nous, vous changez les idées pendant ce confinement. On vous souhaite bon courage. Ce podcast est en accès libre, que vous soyez abonné ou pas. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous écoutez ce podcast, voilà, c'est des choses qu'on fait toute l'année. Donc c'est pour ça que les gens s'abonnent et soutiennent ce qu'on fait sur lebigessart.com. Si vous découvrez ça maintenant, c'est top, bienvenue. Et on espère qu'à la fin du confinement, vous vous abonnerez pour continuer à découvrir tout ce qu'on fait sur le site. Voilà, c'était ma petite minute publicitaire. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne fin de dimanche, comme disait l'autre. Et on se retrouve toute la semaine si vous avez des questions. Si vous voulez vous lâcher, pousser un coup de gueule ou quoi que ce soit, on met tout en ligne sur la outline lebigessart.com. Donc, lâchez-vous.